Maison du Podcast présente.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wild, le podcast animalier, est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment, comme toi, grandir et apprendre avec le sourire. Salut nos petits aventuriers et bienvenue dans Wild, le podcast animalier.
Un podcast pour partir à la découverte de tous les animaux à travers le monde.
Un reportage avec un animal étonnant et un guide qui nous emmènera sur ses traces. Tu es prêt ? Attention, c'est parti ! Elliot, va faire tes devoirs.
Ah non, pas maintenant. Il y a un film super qui passe à la télé.
Ah bon, c'est quoi ?
C'est Jurassic Park. J'adore les histoires de dinosaures, moi.
Ah ouais, moi aussi j'adore. D'ailleurs, tu sais qu'il existe encore des dinosaures de nos jours ?
Ah bon ? Tu me racontes une blague, là.
Mais non, pas du tout. Les oiseaux sont les ancêtres des dinosaures, figure-toi. Et même que chez nous, avant, il y avait plein de dinosaures.
Chez nous ? Vraiment ?
Oui, et même que des paléontologues continuent de faire des fouilles pour retrouver, tu sais quoi ?
Des dinosaures ?
Mieux que ça, des œufs fossilisés de dinosaures.
Des œufs de dinosaures ? Oh, mais c'est trop bien !
Allez, viens, on va faire mieux que regarder Jurassic Park. On va aller les voir en vrai.
Ah ouais, génial ! Attends, bouge pas, je prends mon livre des castors juniors. Ils expliquent comment faire si on croise un dinosaure pour de vrai.
Et toi, qui nous écoutes, es-tu prêt à vivre une aventure exceptionnelle ? Alors prends ton cahier, ton crayon, des bonnes chaussures de marche et n'oublie pas ton courage. Bienvenue dans Wild, à la recherche du monde perdu des dinosaures.
Thierry, merci de nous recevoir chez toi.
Ben, chez nous, c'est pas encore chez moi.
On est où exactement ici ?
Alors nous sommes sur le domaine départemental de Roquehotte. Donc c'est un espace naturel sensible qui est propriété et géré par le département des Bouches-du-Rhône.
D'accord.
Voilà.
Et alors on s'est rendu compte que ici, sur ce territoire, il se trouve qu'avant, il y a des millions d'années, vivaient des dinosaures.
C'est ça. Alors en fait, l'histoire remonte à bien plus loin dans le passé, puisque les premières coquilles d'œufs décrites comme étant des œufs de dinosaures remontent à 1950. Donc en 2010, on tombe sur ce site où on trouve une trentaine d'œufs. L'année suivante, on remet le couvert et on continue les fouilles et on trouve encore une cinquantaine d'œufs. Enfin, on se rend compte que le site est très très riche, qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Toi Thierry, ton métier, c'est paléontologue.
Oui et non. Je suis paléontologue de formation, mais aujourd'hui je suis conservateur de réserves naturelles. Donc en fait, je vais bien au-delà que la simple étude des fossiles. Hein. C'est une toute petite partie de tout ce que je peux faire.
D'accord, mais t'es quand même spécialiste des dinosaures.
Oui, voilà. Ça par contre, on ne le retirera pas. Ça reste ma grande passion.
Bon, bah, du coup, tu vas nous emmener vraiment chercher des œufs de dinosaures.
C'est ça.
Oh, ok, t'es prêt, Elliot ?
Ouais.
C'est cool, hein ?
Ouais.
Allez, et ben on te suit alors.
En route.
Notre guide paléontologue, Thierry, nous emmène sur un terrain de fouilles pour trouver des œufs de dinosaures. Il est considéré comme le père de quelqu'un, mais de qui ? Écoute bien ce qu'il va nous raconter, tu vas voir, c'est incroyable. Et note sur ton cahier.
Et alors que t'as toujours voulu être spécialiste des dinosaures, toi, même petit ?
Oui, c'est une passion que j'ai depuis que je suis gamin, ça m'a jamais quitté. Alors après, j'ai eu ma période complètement faux-folle. Voilà, fou furieux des dinosaures, j'ai des dinosaures partout chez moi. Après, bon, ça s'est un peu calmé, mais j'ai toujours été dedans, quoi.
Et t'as des dinosaures partout chez toi ou pas ?
Un peu moins maintenant, mais oui. j'ai une pièce qui est, où j'ai tous mes livres. J'ai trois bibliothèques de livres, par exemple.
C'est quoi t'offrir à Noël ? Des petites maquettes de dinosaures, des peluches de dinosaures ?
Alors attention, j'en ai quand même beaucoup. Il faut bien s'enseigner. Déjà, en préambule, on peut se dire... On n'est pas dans Jurassic Park. Voilà, les fouilles que l'on voit dans les films, c'est très, on va dire, très simplifié, sur des conditions de travail qui sont extrêmement faciles. Pour donner un ordre d'idée, Archovenator, donc c'est un des derniers dinosaures qu'on a découvert sur, en Provence.
Comment il s'appelle ?
Archovenator, qui est notre gros carnivore. Et les premiers ossements ont été découverts en 2006.
Oui.
Moi, j'ai commencé à travailler dessus en 2008-2009. Et il a été publié, donc officiellement présenté au public en 2014. Donc ça montre le temps qu'il faut entre la découverte, la préparation.
Alors ça, c'est un dinosaure qu'on ne connaissait pas avant ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Alors qui lui a donné son nom?
C'est moi.
Ah voilà. Donc tu es officiellement son père.
C'est ça, enfin l'un des pères. Comme je dis, j'ai l'impression d'être un peu dans ces expéditions de naturalistes il y a 150-200 ans en arrière.
Oh, génial.
Mais au lieu de partir en fin fond du Pacifique ou dans l'hémisphère sud, bon, il suffit d'aller à 15 km d'Aix dans la réserve naturelle et là on fait des découvertes assez folles quoi. On a des botanistes qui ont retrouvé une plante qui était censée avoir disparu depuis plus de 100 ans dans les Bouches-du-Rhône.
Ouais.
Et ici en fait il y en a partout.
Donc on va pas trouver que des dinosaures alors.
Non, non, il y a plein de choses.
Ça y est, nous voilà sur le site archéologique avec des œufs de dinosaures. Écoute bien comment ils sont et décris-les sur ton cahier. Tu peux aussi les dessiner si tu préfères.
On a sur ce site 4 types d'œufs. Ce sont des œufs qui ont toujours la même morphologie générale. Ils sont gros, ils sont globuleux, avec une coquille plus ou moins épaisse. On sait que ce sont des œufs d'herbivores. Là, au total, c'est plus de 400 œufs qui ont été répertoriés sur ce site.
Il y a plein d'œufs en dessous de nous, en fait.
C'est ça, partout. Il y en a partout. Ouais, il y en a vraiment partout. La très grande majorité des œufs qu'on trouve sont éclos. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les dinosaures, c'est-à-dire qu'ils ont pu sortir de leur œuf. Voilà, tout s'est bien passé au niveau de la nidification et de l'éclosion.
Quels sont les outils utilisés par les paléontologues qui font des fouilles? Alors, note les explications de notre guide et là aussi, tu peux dessiner ces outils sur ton cahier.
On utilise des marteaux et des burins. Plus la roche est dure, plus le marteau est gros. Et quand on s'approche des œufs, on voit que les marteaux deviennent plus petits, les burins deviennent plus petits. C'est une façon de dégager beaucoup plus précise, sans faire de dégâts, autour des œufs. Par contre, quand on n'a pas d'œufs et qu'on a besoin d'avancer plus vite, on utilise un burin beaucoup plus gros, un marteau piqueur, qui nous permet de décaisser un maximum de roches et retomber sur la couche qui nous intéresse.
Nos chercheurs vont faire une découverte exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est? À qui ça appartient?
Oui.
J'ai une dent.
Une dent? Alors ça, c'est... Ce serait une belle nouvelle.
Ah
ouais. Ah ouais, c'est la première dent qu'on trouve dans ce niveau-là. Là, on sait qu'on a affaire à une dent parce qu'on voit de l'os.
Ah oui.
Donc c'est très blanc. On voit que c'est brillant, donc c'est de l'émail. Et l'émail, c'est caractéristique des dents. C'est le seul os qui est cette constitution-là.
Donc c'est forcément une dent.
C'est une dent. Et quand on regarde la forme de cette dent...
Ouais.
Donc là, j'étudie en temps réel. Hein, on voit que c'est un peu triangulaire. C'est plutôt caractéristique des dents de rhabdodon.
Alors rhabdodon, c'est celui qui ressemble à une dinde, c'est ça?
Ah non, rhabdodon, c'est la vache avec le bec de perroquet.
Ah, ok.
T'as la suite?
Bah, je sais pas, j'ai une empreinte, je crois.
Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que sur ce site, on n'avait que des œufs jusqu'à présent, enfin sur cette couche-là. Et c'est très rare en fait d'avoir les deux au même endroit. Le fait de trouver des os, justement, à côté d'œufs, ça montre que les os n'ont pas été dissous. Donc, ça relance la possibilité qu'on puisse trouver peut-être des embryons dans les œufs.
Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment du Jurassic Park. Là.
Ah là, oui. Alors, les embryons, si on en trouve, c'est des petits os qui vont être au fond de l'œuf. Ça va très rapidement nous donner une indication sur la famille du dinosaure, puisque les embryons, c'est assez surprenant, mais c'est vraiment des modèles réduits de nos dinosaures adultes.
Attention, c'est ton moment préféré. C'est l'heure de la question Berk. C'est la question que va poser Elliot. Écoute, je suis sûre que ça va te plaire.
Est-ce que tu as déjà trouvé des crottes de dinosaures?
Alors, les crottes de dinosaures existent à l'état fossile, on appelle ça des coprolites. Donc, c'est amusant, hein, parce qu'on a vraiment l'impression de voir une vraie crotte, mais en pierre.
Alors, on imagine que les crottes de dinosaures, ça doit être hyper gros?
Ah, pas tellement. Hein. Alors, par exemple, un triceratops, ça fait une crotte de quelques dizaines de centimètres de long. Hein.
En fonction des œufs qu'ils ont trouvés, les scientifiques ont pu découvrir quels sont les dinosaures qui vivaient ici. Combien d'espèces de familles différentes? Écoute bien, note sur ton cahier, on verra à la fin du podcast si tu as trouvé la bonne réponse.
On a 4 grandes familles de dinosaures, donc 3 herbivores et même 5 grandes familles, 3 herbivores et 2 carnivores. On a les titanosaures, les titanosauriens, donc ce sont ces animaux à long cou, longue queue, qui peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de long pour les plus gros spécimens.
15 mètres, c'est déjà pas mal, hein, c'est la taille d'un bus.
C'est ça.
Ouais. Oui, c'est pas mal.
Ensuite, nous avons le rhabdodon, qui est un peu notre iguanodon. Je ne sais pas si vous connaissez ce dinosaure-là, mais notre iguanodon local. Et donc, comme pour iguanodon, c'est un animal qui est quadrupède, mais qui peut se déplacer sur ses membres postérieurs, debout, herbivore, avec un bec de perroquet, et des dents en forme de ciseaux à bois, donc qui peuvent trancher la végétation la plus résistante. C'est une espèce de perroquet mélangé avec une vache, si on veut avoir une idée. Et comme les vaches, ça se baladait en troupeau et ça passait son temps à manger. Troisième herbivore, les nodosauridés. Donc ce sont, comme leur nom l'indique, des lézards avec des nodules sur le dos. On a deux types de prédateurs en Provence. Un petit carnivore qui va s'appeler par la suite Variraptor, comme son nom l'indique, c'est un raptor. Donc ces dinosaures qui ont été très démocratisé grâce à Jurassic Park. Il faut savoir que le vrai vélociraptor est tout petit en fait, hein. C'est pas plus gros qu'une dinde. Et donc ça c'est le petit, c'est la petite teigne.
Petit carnivore. Voilà.
Et après on a le gros méchant, donc Archovenator, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est un des derniers dinosaures découverts en Provence. Ce sont des carnivores plutôt de taille moyenne, qui vont tout miser sur la rapidité, leur agilité et sur des morsures à répétition. Ce que j'appelle les dinosaures harceleurs.
Quelle est la différence entre archéologie et paléontologie? Allez, note sur ton cahier.
Alors, tu te sers de quoi?
D'un couteau.
Oui.
Ça paraît facile, mais c'est hyper dur.
Oui, ouais, c'est pas si simple de chercher des autres dinosaures.
Bah là, j'ai un marteau et un burin. J'essaye de regarder, de chercher à côté de l'œuf jusqu'à où il va.
Là, par exemple, on dirait qu'il y a quelque chose. On a un œuf, mais ici, est-ce que ce serait pas une coquille d'œuf, là, ici?
Ah, il faut être hyper délicat, hein.
C'est ça.
Ouais, c'est vraiment beaucoup de patience, tout en délicatesse.
Ah. Et voilà, t'as trouvé une coquille d'œuf.
Oh, bravo, Elliot. Incroyable. Vous êtes vraiment des chercheurs de trésors.
C'est ça, c'est le métier. On est des déterreurs de trésors.
C'est moitié Indiana Jones, moitié Jurassic Park.
En fait, le métier de paléontologue est très proche de celui de l'archéologue. Hein, donc, bon, la seule différence avec Indiana Jones, c'est qu'on n'a pas de fouet sur le site. Encore que peut-être que ça pourrait motiver à travailler plus vite. Les outils sont les mêmes, la méthodologie est quasiment la même. Ce sont les études qui sont très différentes. Hein, les archéologues s'intéressent à l'histoire de l'homme. Alors que les paléontologues, c'est l'histoire de la vie, bien avant l'apparition de l'homme. Donc c'est complémentaire.
Thierry nous emmène maintenant sur une zone où ont été découverts des incroyables ossements de dinosaures. Écoute bien dans quelle position il était, ce qu'il manquait comme partie de son corps et que l'on cherche encore.
C'est sur cette zone qu'on a trouvé les quelques 350 ossements de dinosaures, dont très majoritairement du rhabdodon. Là, on a un animal qui était le plus complet de tous, qui a été trouvé sur son flanc droit. Donc il faut imaginer qu'il est mort comme ça. En fait, on a commencé en attaquant la paroi qui était ici, ouais. Et on avait trois petits os alignés. Ces trois petits os, en fait, quand on les a dégagés, c'était des phalanges des pieds, donc les os des orteils. Auxquels étaient donc ensuite, quand on a continué, on a eu la jambe qui était pliée, la jambe était accrochée à son bassin, ouais. Et ensuite on a eu toute la colonne vertébrale. Donc là, c'est vraiment des fouilles très rares, enfin des conditions découvertes très rares. Hein. On n'a pas cette chance tous les jours.
Donc du coup, t'as retrouvé le squelette en entier ?
Pas entier, non. On est environ à... Quand je dis entier, c'est qu'on est déjà à plus de 30-40% de conservation.
Ouais, c'est énorme.
Malheureusement, il nous manquait la tête pour celui-là.
Ah, il manque la tête !
Ah oui, parce que le truc un peu frustrant, c'est qu'on remontait... Enfin, je remontais la colonne vertébrale.
Ouais.
En disant, oui, c'est bon, on se rapproche du cou.
Ouais.
J'avais le cou, ouais. Et là, plus rien, un œuf. Je fais,
ah,
plus rien.
Ah !
Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu deux œufs qui ont
donc,
été pondus.
Donc, potentiellement, il s'est pris un œuf sur la tête.
C'est une hypothèse. On ne peut pas l'exclure, mais... Donc c'est pour ça, on continuera à fouiller les années prochaines pour voir si le crâne n'aurait pas été un peu disloqué et emporté un peu plus dans le...
Ah oui, mais il doit pas être loin, ça veut dire qu'on doit avoir sa tête quelque part par là.
On a trouvé des autres crânes un peu dispersés sur la zone, peut-être pas forcément de cet animal-là, parce qu'on a, voilà, comme je disais, on avait une dizaine d'individus.
Donc ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des œufs de dinosaures dans son jardin.
Si on est sur des terrains qui sont d'âge crétacé et qui sont plutôt argileux, comme ceux-là, il y a des chances qu'on puisse avoir des œufs, oui, dans son jardin.
Bon, Elliot, tu nous trouves des dents de dinosaures ou pas? Qu'est-ce que t'as trouvé?
Bah, rien.
Ah, c'est un peu comme la chasse aux champignons. Au départ, on a du mal. Une fois qu'on a trouvé le bon coin...
Comment est-ce qu'on fait pour faire attention à tous ces trésors merveilleux qu'on peut trouver, les œufs de dinosaures, les squelettes, les dents?
Alors, il y a deux choses à retenir quand on cherche des fossiles. La première règle la plus importante, c'est qu'on est toujours chez quelqu'un quand on cherche et quand on trouve. Donc toujours avoir l'autorisation du propriétaire du terrain. Ensuite, quand on trouve quelque chose, voilà, il n'est pas interdit de faire de la prospection et de s'intéresser aux fossiles, bien au contraire. Hein. Mais quand on trouve quelque chose, il vaut mieux être en rapport avec un spécialiste, un paléontologue, pour déjà lui notifier la découverte et ensuite voir avec lui de quelle manière peut être extraite et étudiée. Parce que ça, c'est toujours délicat. On a des personnes qui pensent pouvoir sortir un fossile du site, enfin d'un site, et en fait, on a plus de destruction qu'autre chose. Et tout fossile perdu, c'est de l'information qu'on ne peut pas renouveler. Hein, donc, c'est définitivement perdu.
Ouais, donc si on a un squelette de dinosaure dans son jardin, on t'appelle pour venir le chercher.
Voilà, vaut mieux.
Ouais. Bon, quel petit conseil aux enfants qui nous écoutent et qui veulent devenir paléontologues comme toi, qui alors, ils commencent à chercher, à prospecter, il faut s'armer d'un petit...
Il y a plein de choses. On peut acheter des livres, on peut faire du dessin, on peut... Le tout, c'est de se faire plaisir.
Le premier outil qu'il faut acheter ?
J'irai un livre.
Ah oui.
Un bon livre. Parce que pour connaître un fossile, pour le reconnaître, bah, il faut savoir déjà ce qu'on cherche. Un petit pinceau, un petit burin, un petit marteau de géologue, bah, ça dépend du poids, du matériel. Et surtout avoir tout l'équipement de protection aussi, des gants, des lunettes, des chaussures. Parce que se faire tomber un marteau sur le pied, c'est pas agréable.
Ouais. Avec tout ça, on est prêt pour partir à la fouille et pour aller découvrir des super fossiles. Quoi.
C'est ça.
Merci beaucoup Thierry de nous avoir accueillis chez toi.
Ouais,
on va te laisser à tes fouilles retourner. Hein. Tu nous préviens si tu tombes sur un grand squelette, on revient.
Ah, bah, bien sûr. Hein. Alors, dès qu'on a l'embryon,
à l'embryon, pour qu'on fasse comme dans Jurassic Park et qu'on remonte le temps pour refaire revivre les dinosaures. J'imagine que c'est ton rêve, ça.
Oui, mais on oublie que les dinosaures existent toujours. Hein. On en a même derrière encore.
Ah oui, c'est vrai.
Les canards, là, pour le coup, mais les oiseaux, voilà, ce sont nos dinosaures qui sont toujours parmi nous. Hein.
Ah, ils sont toujours là.
Ouais.
On va faire attention à eux aussi, alors.
C'est maintenant l'heure des réponses. As-tu tout compris sur les dinosaures ? Notre guide est considéré comme l'un des pères d'Archovenator, un gros carnivore qu'il a découvert lors de fouilles. C'est même lui qui lui a trouvé son nom. Les œufs sont gros, globuleux, avec une coquille plus ou moins épaisse. Ce sont des œufs d'herbivores. Au total, 400 œufs ont été découverts sur ce site. La plupart sont éclos. Quels sont les outils utilisés pour les fouilles ? Eh bien, ce sont des marteaux et des burins pour dégager délicatement les œufs qui sont fossilisés dans la roche. Des fois, on utilise aussi des marteaux piqueurs. Ça, c'est pour faire des grosses fouilles. Nos chercheurs ont trouvé quoi ? Eh bien, une dent de dinosaure, blanche, en émail. C'est une dent de rhabdodon. Une dent de dinosaure sous terre, tu trouves pas ça incroyable, toi ? La question Berk. Eh oui, notre paléontologue a déjà trouvé une crotte de dinosaures fossilisée. Tu as retenu son nom ? On appelle ça des croupolites.
Hiring for your small business ? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Combien de familles de dinosaures vivaient ici ? Eh bien 5, 3 herbivores, 2 carnivores. Leur nom ? Eh bien il y a les titanosaures qui font la taille d'un bus, le rhabdodon, un mélange de perroquets et de vaches, des nodosoïdés et puis ensuite des carnivores, les variraptors qui faisaient la taille d'une dinde et le fameux Archovanotor, le gros méchant. As-tu retenu la différence entre un archéologue et un paléontologue ? Eh bien, l'archéologue travaille sur l'histoire de l'homme, alors que le paléontologue, lui, travaille sur l'histoire de la vie, et même bien avant l'apparition de l'homme en général. Facile à retenir. Quel animal a été retrouvé quasiment avec son squelette en entier ? Eh bien, on a retrouvé ici 350 ossements de dinosaures, un animal retrouvé sur son flanc droit. D'abord, ils ont trouvé ses orteils, après sa jambe pliée, ensuite son bassin, la colonne vertébrale, le cou. Malheureusement, il manquait quoi ? Eh bien, la tête ! Elle doit être écrasée dans un coin en 1000 morceaux. Peut-être il s'est pris une grosse pierre sur la tête. Et puis, est-ce que tu as retenu que si jamais toi aussi tu fais une incroyable découverte dans ton jardin, il vaut mieux être en rapport avec un paléontologue pour qu'il t'aide à sortir de terre ta découverte, et puis aussi, eh bien pour pouvoir aider la science.
Incroyable ! Vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé sur ces sites, mes petits-enfants.
Professeur Sapiens, qu'est-ce que vous faites ici ?
J'allais quand même pas rater une chasse aux œufs de dinosaures, enfin ! Vous savez, vous devriez rattraper Thierry. J'ai laissé sur son terrain de fouille une petite surprise.
Une petite surprise ? Mais qu'est-ce que c'est ?
une machine à remonter le temps. Allez, dépêchez-vous, la faille spatio-temporelle ne dure jamais longtemps. Regardez, il vous attend là-bas, dans la navette spatiale.
Génial! Allez, monte, Elliot, dépêche-toi, il ne faut pas rater la faille spatio-temporelle.
D'accord, j'emmène mes œufs de dinosaure et mon appareil photo. Peut-être que je pourrais faire un selfie avec un raptodon.
Ça, c'est pas sûr. Mais bon, on peut toujours essayer. Allez, mets ta ceinture.
C'est parti!
Ça va, Elliot? Pas trop dur, l'atterrissage?
Non, ça va. Tu crois que ça a marché? On a vraiment remonté le temps. Regarde, là-bas! Qu'est-ce que c'est?
Je crois que c'est un troupeau de dinosaures, Elliot. Viens, on s'approche de Thierry. Il est en train de les observer avec ses jumelles.
Waouh! Incroyable!
Alors, du coup, Thierry, tu nous as fait faire un chouette voyage, là, dans le temps. On est à combien d'années, à peu près?
Donc là, on est il y a 70 millions d'années, donc au début de l'automne. Et on a la chance de voir de nombreux dinosaures, en tout cas herbivores. Les carnivores sont peut-être un peu cachés, on va essayer de les trouver.
Qu'est-ce que c'est, là-bas, qu'on voit, par exemple? Un herbivore, sûrement, celui-là, il est en train de manger...
Quelle est la première espèce de dinosaure herbivore que nous allons croiser? Note bien la réponse sur ton cahier. Écoute aussi ce qu'il mange et comment il est.
Bah oui, en fait, on a un troupeau de rhabdodons. Hein. Là, on voit bien qu'il y a une dizaine d'individus, plutôt de la même taille. Hein. Et donc, ils vivent en groupe. Ils sont là en train de manger la végétation, les conifères, les fougères qu'on a ici, là, tout autour de la rivière.
Mais là, ils font quoi comme taille, à peu près, ceux-là ils...
Ah, je dirais qu'à vue de nez, on est sur du 4-5 mètres.
On peut rentrer la maison, hein, quand même, Elliot, qu'est-ce que t'en penses?
Énorme.
Attends, c'est rien par rapport aux autres à côté, là. Il y en a des beaucoup plus gros.
Ah oui, derrière, donc on voit des longs coups, là, qui dépassent de la végétation, ce sont les titanosauriens.
Ah, les fameux titanosauriens.
Qui passent leur temps, en fait, à manger les fruits des conifères dans les arbres. Donc ouais. Avec leurs dents en forme de peigne, ils vont ratisser les branches et ne récupérer que l'équivalent des pommes de pin actuelles. Hein. Ils vont engloutir des quantités phénoménales de végétation et ensuite laisser macérer ça dans leur ventre pour en tirer toute l'énergie possible.
Alors ceux-là, ils sont plutôt sympas, on craint rien avec eux.
Non, ils sont gentils. Il ne faut pas se faire écraser, hein. Ils sont quand même assez gros. Oui, c'est plutôt des animaux paisibles, oui.
On risque quand même de croiser des carnivores, des un peu moins sympas.
C'est ça. Donc il faut se dire que chaque carnivore a sa propre préférentielle. Hein. Donc si on se rapproche des rhabdodons, il faudra faire attention aux fourrés, surtout les herbes basses tout autour, parce qu'il peut y avoir des variraptors qui se cachent dedans.
Les variraptors, pourquoi est-ce qu'il faut se méfier d'eux? Écoute ce que nous explique notre guide Thierry.
Ces animaux, comme dans Jurassic Park, hein, qui attaquent en groupe, qui élaborent des stratégies d'attaque assez poussées pour isoler un individu et ensuite l'attaquer, le manger, un peu ce que font les lions aujourd'hui.
Hein. Et là, tout au fond, est-ce que c'est pas un variraptor?
Bah, il court vite, hein, c'est sûrement ça. Ouais. Là, celui-là, il s'est fait repérer par les rhabdodons, donc il s'échappe.
Parce que les rhabdodons, ils peuvent le manger?
Non, mais parce qu'une fois qu'un prédateur est repéré, sa stratégie tombe à l'eau, donc il faut qu'il recommence. Par contre, là-bas, tout au fond, il y a une silhouette un peu plus grosse. Je pense que c'est un narcovénator. Alors lui, il va plutôt s'attaquer au titanosaure.
Le narcovéraptor a une particularité. Laquelle? Il a des tout petits couas. Écoute bien la réponse de notre guide et note-la sur ton cahier.
Alors, lui, par contre, il n'est pas sympa, je crois.
Ah, là, on le voit quand même avec la distance. C'est un jeune adulte qui fait 5-6 mètres de long, hein, donc ouais. Belle taille.
Alors lui, il marche sur deux pattes.
Deux pattes, oui. Avec ses tout petits bras atrophiés à l'avant, donc il utilise uniquement sa mâchoire pour attaquer les herbivores.
Il a une grosse mâchoire avec beaucoup de dents. Là, c'est quoi? C'est la taille des dents là-dedans?
C'est des dents qui font 4 à 5 cm, qu'il faut multiplier par 40 sur chaque mâchoire. Faut pas se faire croquer.
Bon, on ferait peut-être mieux pas de rester là, parce qu'il peut nous manger, du coup.
Oui, on va se faire discret et prendre un peu de recul.
Quoi ils lui servent, ces bras?
Ah ben ces bras lui servent à rien, justement. C'est pour ça qu'ils ont des tailles très très petites. C'est un peu comme le tyrannosaure, hein. Tout est basé sur la mâchoire, sur la morsure. Donc plus besoin de s'agripper, plus besoin de griffer.
C'est juste pour faire joli, en fait.
C'est ça.
Comment vivent les dinosaures entre eux? Note la réponse de Thierry, on verra à la fin du podcast si tu as eu la bonne réponse.
Bon, et alors, les dinosaures, ils sont sympas entre eux? Ils vivent en famille? C'est quoi leur comportement?
Donc on pense que comme on le voit là très bien, rhabdodons étaient plutôt grégaires, hein, puisque tous les squelettes qu'on a trouvés aujourd'hui montrent qu'ils ont été plutôt regroupés. Alors soit ils mouraient au même endroit, soit ils vivaient ensemble la plupart de leur temps. Les titanosaures sont un peu plus solitaires, pareil pour les carnivores. Bon, on pense que quand même que les deux carnivores, que ce soit les petits raptors ou archovénators, devaient quand même se fréquenter. Alors, ça, on va forcément habiter tous ensemble sur la même zone, mais se cohabiter, puisqu'on a trouvé des éléments squelettiques en grande quantité quand même sur les gisements.
La grande question que tout le monde se pose, pourquoi les dinosaures ont-ils disparu? Écoute ce que va nous expliquer Thierry et retiens bien les deux principales théories.
Bon, et alors est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'ils ont tous disparu finalement? On a toujours plusieurs théories.
On a toujours plusieurs théories. Donc là, on est à 72 millions d'années, donc c'est pas l'astéroïde qui va nous... Voilà, c'est pas d'actualité encore. Ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que nos dinosaures de Provence ont peut-être disparu avant. Parce qu'on n'a plus de traces de fossiles 2 à 3 millions d'années avant juste avant l'extinction de...
Généralisée,
la crise Crétacé-Tertiaire, que soit causée par l'astéroïde qui a touché le Mexique, soit le volcanisme intense qui s'est développé en Inde à l'époque. Voilà, la concomitance des deux événements a fait que ça a été très compliqué pour la vie sur Terre de se relever de cet événement-là.
T'as retenu, Eliott, c'est quoi alors les causes?
Soit c'est parce qu'il y a eu un volcan qui a fait plein de cendres, enfin des énormes nuages de cendres, et que du coup les plantes elles pouvaient plus pousser. Soit il y a eu un énorme astéroïde.
Ouais.
Et soit il y a eu.
C'est ça? Pour l'instant on en est là?
On pense aujourd'hui qu'il y a eu les deux.
Il y a eu les deux en même temps.
Voilà, la question c'est de savoir qui a été le plus violent des deux, mais l'astéroïde on a trouvé l'impact, il n'y a pas de doute. Le volcanisme a bien eu lieu puisqu'on a toutes les formations de dépôts de lave qui sont bien visibles, ce qu'on appelle les traps. La question de savoir quel a été l'ordre entre les deux, l'intensité et finalement qui a eu l'effet le plus dévastateur. Selon les dernières théories, peut-être que l'impact météoritique en fait aurait réactivé à travers ces ondes de choc le volcanisme en Inde qui existait.
Et un peu endormi, quoi.
Voilà, plus ou moins endormi, mais qui serait ensuite réveillé franchement.
Donc ça, c'est l'extinction généralisée. Mais on pense qu'ici, ils étaient morts avant.
En Provence, les dinosaures ont disparu avant les autres. Pourquoi? Écoute bien les théories de notre guide.
On ne sait pas trop, en fait. Le problème, c'est que de 68 millions d'années à 66, donc pendant 2 millions d'années, on ne trouve plus de fossiles de dinosaures en Provence. On va en trouver encore en Espagne, on va en trouver dans les Pyrénées françaises, au pied des Pyrénées. Mais ici, on n'a plus de traces de vie. En fait, quand on cherche bien, on va trouver quelques petits gastéropodes, quelques traces de terriers, mais plus de traces de fossiles. Alors soit, tout simplement, les animaux ne sont pas conservés. J'expliquais pour les œufs, les conditions étaient totalement défavorables à la fossilisation. Soit les animaux se sont déplacés, ont été ailleurs, parce que les conditions de vie n'étaient plus favorables, moins de végétation.
Oui, ils n'avaient plus rien à manger.
Et surtout qu'à l'époque, on est sur une île. Il faut imaginer que toute l'Espagne, le sud de la France, était connectée, formait une île, et cette île pouvait aussi être plus ou moins connectée avec le Massif central et l'Armorique. Et donc qui dit île, dit espace beaucoup plus restreint, une compétition beaucoup plus forte, des ressources limitées, ce qui fait que ça joue aussi sur les conditions de vie de ces animaux.
Et oui, on a quand même encore beaucoup de mystères qui ne sont pas résolus.
Totalement. Et on a encore plein de choses aussi à découvrir sur les animaux qui vivaient autour de ces dinosaures.
Quels autres animaux vivaient avec les dinosaures? Retiens quelques exemples donnés par notre guide. Moi, personnellement, j'aurais pas trop aimé vivre à cette époque. Et toi?
Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des dinosaures, sont un peu les stars du Crétacé, enfin même du Mésozoïque au sens large. Mais on a une faune très très riche et très diversifiée qui vivait entre les pattes, au-dessus de leur tête et dans les eaux. Alors par exemple, les rivières, on a parlé de cette grande rivière, personnellement, je n'irai pas mettre les pieds dedans. Parce qu'entre les crocodiles qui font jusqu'à 6 mètres de long, les requins d'eau douce, les poissons carnassiers comme des genres d'esturgeons qui font 3-4 mètres de long, on a aussi des mosasaures d'eau douce qui vivaient dans nos sites.
Des mosasaures d'eau douce,
Alors, vous avez vu Jurassic World,
ouais.
Avec ce gros lézard aquatique qui mange le requin. On s'est rendu compte qu'on en avait aussi dans nos rivières, dans le sud de la France, enfin en Europe, dans quelques rivières, on a trouvé des restes.
Donc là, la rivière, on ne va pas aller se baigner là, par exemple.
Non, il ne vaut mieux pas. On a des sélacantes aussi.
Sélacantes. C'est genre des piranhas, quoi.
Non, c'est des gros poissons osseux qui pouvaient atteindre jusqu'à un mètre de long.
Ah oui, quand même.
Bon, avec des petites dents, mais ça fait quand même un bel animal. Et sur la terre ferme, on a aussi des animaux assez particuliers. On a des crocodiles terrestres, par exemple. Donc ouais. Des crocodiles qui ne vivaient que sur la terre ferme, plutôt nocturnes. On a des mammifères aussi, des petits animaux frugivores, pas très très gros, environ 30 cm de longueur, sans compter la queue, parce qu'on n'a aucune information sur la taille de cette partie du corps, on a que des dents.
Donc l'ancêtre de quoi peut-être?
Alors c'est une famille un peu particulière, parce que qu'on appelle donc les élestidés, ça n'a plus d'équivalent actuel, et qui sont un peu à l'origine de beaucoup de mammifères, incluant les cétacés, les rhinocéros, les éléphants, les chevaux, les bovidés. Voilà, tous ces animaux, en fait, descendraient de quelque chose. Voilà, quelque chose de très proche des élicidés. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des ptérosaures.
Les ptérosaures.
Là, ces grands reptiles volants. On connaît bien Quetzalcoatlus, par exemple, là, qui est ce ptérosaure qui pouvait atteindre jusqu'à 12 mètres d'envergure. On a des restes de ptérosaures de très grande taille en Provence. Et qu'une fois au sol, bon, en fait, ils passaient le plus clair de leur temps sur le sol, près des rivières à pêcher. Donc on aurait l'équivalent en silhouette d'une girafe, sauf qu'une girafe avec un bec de presque 2 mètres de long, et qui, donc, en fait, pêchait dans les rivières.
Bon, bah, je crois qu'on va pas tarder, hein, Elliot, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a l'air un peu dangereux par ici.
Oui. Hein,
on va reprendre notre petite machine à remonter le temps, non? Qu'est-ce que t'en penses, Thierry? On va peut-être pas s'attarder.
Oh, bah, oui.
Bon, toi, t'es bien, toi, ici, t'as pas
peur. Je suis très bien, ça me permet de voir mon sujet d'étude de manière un peu plus animée.
De plus près, ouais. Tu vas sortir ta longue vue, tu vas les étudier. De loin, c'est mieux.
C'est maintenant l'heure des réponses. Alors, la première espèce que nous avons croisée, eh bien c'est un troupeau de raptodons. Ils sont sympas, ils sont herbivores, ils mangent des conifères, des fougères autour de la rivière. Ils mesurent quand même entre 4 et 5 mètres, c'est pas mal. Pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des variraptors? Ah, eux, ils sont vraiment pas sympas. Ils attaquent en groupe, ils isolent leur proie, un peu comme les lions, pour ensuite les dévorer. Et en plus, ils courent vite. La particularité du Narcoviraptor, eh bien il a des tout petits bras à l'avant qui lui servent à rien du tout. Un peu comme le tyrannosaure, toute sa force est dans sa mâchoire. Les dinosaures herbivores vivent plutôt en troupeaux. On dit qu'ils sont grégaires, ça veut dire qu'ils vivent les uns avec les autres. C'est le cas du raptodon par exemple. Les dinosaures carnivores, eux, sont plutôt solitaires. Tu m'étonnes, moi si j'avais un copain qui attaquait et qui mangeait tout le monde, je sais pas si je voudrais rester longtemps son ami. Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu? On n'en est encore pas tout à fait sûr. Soit à cause de l'irruption d'un volcan qui a fait un énorme nuage de cendres et qui a recouvert la planète, soit à cause d'un énorme astéroïde qui s'est écrasé sur la Terre. On pense d'ailleurs peut-être que c'est l'astéroïde qui était tellement gros qu'en s'écrasant, il a réveillé les volcans d'Inde qui étaient endormis et c'est leur irruption qui a ensuite provoqué l'extinction des dinosaures. Pourquoi les dinosaures en Provence ont disparu avant les autres? Eh bien c'est vrai, on n'a plus trouvé de fossiles pendant 2 millions d'années avant la disparition des dinosaures dans cette zone. Peut-être parce que les fossiles n'ont pas été conservés, parce que les conditions météo n'étaient pas bonnes et favorables à la conservation de fossiles. Peut-être aussi parce que les dinos se sont déplacés, ils ont changé d'endroit, ils ont peut-être trouvé une ville plus sympa où habiter, qui sait. Quels autres animaux vivaient avec les dinosaures? Il y en avait tout un tas. Des crocodiles de 6 mètres de long, des requins d'eau douce, des esturgeons de 3-4 mètres de long, des mosasaures, de gros lézards aquatiques qui mangent des requins, des stélacanthes, des gros poissons osseux avec des dents, des crocodiles terrestres nocturnes et des petits mammifères de la famille, des élestidés qui seraient l'ancêtre de tous nos mammifères actuels. Et puis bien sûr, il y avait des ptérosaures, des oiseaux géants qui faisaient jusqu'à 12 mètres d'envergure.
Bizarre, je vois un attroupement de raptodons là-bas.
Ah oui, tiens, ils sont tous en cercle autour de quelque chose. Viens, on s'approche. On dirait qu'ils discutent avec un animal. Un animal qui a un slip en fourrure.
Professeur Sapiens ?
Professeur, vous avez remonté le temps, vous aussi ?
Mes petits amis, vous êtes là. C'est incroyable. J'ai retrouvé mes vieux amis dinosaures. Ah, je suis tellement content de les retrouver. Juste avant.
Juste avant quoi, professeur ?
Nom de Zeus ! Ça y est, c'est déjà là. Regardez dans le ciel, la grande trace lumineuse.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est l'astéroïde. Elle arrive plus tôt que prévu. Il est temps de repartir, mes enfants.
Mais les raptodons, on peut pas les laisser là. Ils vont mourir.
T'inquiète pas, j'ai mis un couple dans ma navette spatiale. Bon, ils ont un peu leur cou qui dépasse, mais ça devrait aller. Allez, en route, les enfants. Le dernier à monter dans la soucoupe est un poule raptor mouillé.
Allez, dépêche-toi, Elliot, monte.
Oh, j'aurais aimé rester plus longtemps.
Elliot, il y a quoi dans ton sac?
Dans mon sac? Rien.
Rien? Mais c'est quoi ça?
Oh, c'est un archéocératops. Quelle bonne idée, Elliot.
Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire d'un dinosaure à la maison?
Ah non, mais t'inquiète, pas celui-là. Il grandira pas plus que la hauteur de ton genou.
C'est pas possible. Avec vos bêtises, on va changer le cours de l'histoire.
Donne-lui un petit machin, moi, le rose, il adore ça.
Je ne suis pas sûre que les chamallows soient très adaptés à leur régime alimentaire.
Allez hop, accrochez-vous! Puissance maximale!
Allez, on rentre à la maison! Wild, le podcast animalier, sort tous les mercredis et c'est gratuit. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Si tu veux participer, envoie-nous tes questions avec des vocaux sur les réseaux sociaux Wild Podcast Animalier et sur Facebook et sur Instagram.
Pirouette est un magazine du groupe Unique Héritage Média. Retrouve-le chez ton marchand de journaux préféré ou abonne-toi sur www.fleuruspresse.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.